à 7. Voilà. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Amen. Portique d'entrée majestueux pour cette lettre si importante. On va maintenant dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30. Comme j'en ai souvent l'habitude, on fait une petite moisson de plusieurs textes qui vont rejaillir, résonner à travers cette méditation. Deutéronome 30, versets 11 à 14. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher ?» qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu le mettes en pratique. Il faut reconnaître que ces questions qui sont posées, qui ira nous chercher au ciel ou de l'autre côté de la mer, n'ont pas la même intensité maintenant que nous voyageons parmi les étoiles, qu'aller en Amérique ou en Australie, c'est plus une affaire extraordinaire, quoi. On a atteint des limites bien plus lointaines qu'au temps de la rédaction du Deutéronome, c'est clair. Et il faut bien que nous nous souvenions que poser de telles questions, c'est dire d'une certaine manière, c'est pas possible ça. Eh bien, Dieu dit que ses commandements appartiennent au domaine du possible, dans la mesure où notre cœur est touché, dans ta bouche et dans ton cœur. On reviendra là-dessus. Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 11, quelques versets que vous connaissez tous par cœur. « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et enfin, dans le même évangile de Matthieu, chapitre 21, une petite parabole. Jésus pose la question : Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ça, c'est bien les ados. Hein. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit : « Je veux bien, Seigneur. » Et il ne l'a pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : « Le premier. » Voilà ce que c'est l'expression qui m'a titillé lors de la préparation de ce message, c'est celle que nous trouvons dans cette lettre aux Romains. Paul se déclare envoyé par Dieu pour amener les païens à l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il y a un vieux cantique, plus ancien encore que ceux qu'on a chantés là. Un vieux cantique met les choses dans le bon ordre. Il dit « croire, obéir ». Si nous voulons jouir du vrai bonheur en Jésus, il faut croire, obéir. Croire d'abord. Établir la confiance. Pour ensuite prendre le chemin de l'obéissance. Michel Hidalgo, qui était entraîneur de l'équipe de France de football il y a pas mal de temps en arrière, était un peu en conflit avec son équipe. Et il avait dit à un journaliste : « Je ne leur demande pas d'obéir, mais de comprendre et d'adhérer. » C'est exactement cela. L'obéissance de la foi, c'est comprendre avec son cœur et adhérer au projet de Dieu. Et dans ces conditions-là, obéir n'est pas difficile. On va faire le tour de cette question, j'espère, un peu. Pour moi, l'obéissance de la foi résume à elle seule toute la vie croyante, toute la vie en Christ. Paul le dit, par l'évangile de Jésus-Christ, il désire amener les païens à l'obéissance de la foi, c'est-à-dire à quitter la révolte contre Dieu. Nous sommes tous des fils de la révolte. La révolte est dans nos cœurs. J'allais dire, c'est notre nature. Des enfants rebelles. Souvent, les prophètes ont déclaré qu'Israël était un peuple rebelle au cou raide. Mais les Bretons aussi. Et les Suisses, n'en parlons pas. N'est-ce pas ? Eh bien, l'Évangile nous appelle à quitter la rébellion, à quitter cette révolte, j'allais presque dire originelle, pour devenir obéissant. L'humanité est appelée, l'humanité entière, est appelée à devenir obéissante, elle est appelée à accomplir les desseins bienveillants de Dieu pour sa création tout entière. Il ne s'agit pas seulement de désirer aller au ciel et éviter l'enfer, mais il s'agit de réaliser le programme de Dieu pour sa création tout entière. L'œuvre de Dieu, le salut de Dieu, fait éclater les limites de nos conceptions. Nous ne sommes pas simplement des gens qui vont au ciel, mais nous sommes ici pour aussi préparer les chemins du Seigneur, incarner le royaume de Dieu, sa justice, ici, maintenant. Et notre obéissance doit aller dans ce sens. L'obéissance de la foi consiste à s'engager dans la trace de Jésus, tel que l'Évangile nous le montre. Jésus nous y est annoncé comme celui qui a obéi. Il a accompli à la perfection la volonté du Père. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a pu donner sa vie pour nous en tant que victime propitiatoire. S'il avait fallu que Jésus meure pour une faute à lui, il ne serait pas notre sauveur. Il était innocent. Comme le dira Pierre dans le livre des Actes, vous avez renié le saint et le juste. Il a été saint est juste. Il a obéi à son Père en toutes choses. Il a même appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est-à-dire qu'avant nous tous, devant nous tous, Jésus a opéré des choix. Jésus s'est attaché à son Père. Il a dit « J'aime mon Père ». Et il a aimé sa volonté, même lorsque celle-ci a pris la forme de la mort. Jésus a obéi. Par amour, par la confiance qu'il plaçait dans son Père. Dans sa lettre aux Galates, au chapitre 2, verset 16, c'est un verset un peu difficile. Paul écrit ceci. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Ça, tout le monde le comprend, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas justifiés en nous soumettant à la loi. La loi de Moïse. Mais par la foi de Jésus-Christ. Le texte grec dit bien la foi de Jésus-Christ. On pourrait dire la fidélité de Jésus-Christ. Nous sommes justifiés par la fidélité d'un autre que nous. Vous comprenez bien? C'est la fidélité de Jésus qui nous vaut d'être pardonnés, graciés. L'homme est justifié par la foi de Jésus-Christ. Sachant cela, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ. Placer notre confiance en lui, afin d'être justifié par la foi du Christ. On revient sur cette notion de la fidélité de Jésus, celle qu'il a montrée. Afin d'être justifié par la foi du Christ et non par les œuvres de la loi. Parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Les vieux routiers connaissent bien le sujet de l'Épître aux Galates, n'est-ce pas? Ces églises de Galatie qui étaient tentées de revenir à un certain légalisme judaïsant, pour ne pas dire un légalisme certain. Il fallait revenir à la circoncision, observer le sabbat, les tabous alimentaires, etc. Et Paul voit rouge. Il leur dit, si vous vous faites circoncire, le Christ ne vous servira de rien. Il faut choisir. C'est ou bien, ou bien. Donc nous sommes justifiés par la foi de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous plaçons notre foi en Jésus-Christ. Afin d'être justifiés par sa fidélité. Ceci nous donne une grande assurance devant Dieu. Je n'ai rien à présenter à Dieu que la justice du Christ. Et là, il m'entend. Il me bénit. Il y a un autre vieux cantique que j'aime beaucoup. Plongé dans un bourbier de fange, je me débattais, mais en vain. Quand Jésus vint, un mystère étrange me saisir par la main. Du grand abîme, il me sauva. Son sang, tous mes forfaits lava. À Christ uni, je suis béni. Par l'œuvre du mont Golgotha. Tout est dit. À Christ uni, je suis béni. Vous êtes bénis, mes frères, mes sœurs. Vous croyez ça? Nous avons échappé à la malédiction. Nous sommes héritiers de la bénédiction. Dieu, par Jésus-Christ, dit du bien de vous. Ah ben, je ne sais pas comment il fait. Eh ben si, justement. C'est par grâce, il dit du bien. Et quand on a compris cela, alors l'obéissance de la foi devient possible. Accueillir Jésus-Christ, c'est être revêtu de cette innocence. C'est tout ce qui nous est demandé, il n'y a rien à ajouter. Comme la publicité du café Maxwell, ça n'est pas la peine d'en rajouter, n'est-ce pas? Dieu regarde qui a mis sa confiance dans la fidélité de Jésus comme ayant pleinement satisfait à toutes ses exigences. À partir de cette situation donnée, l'obéissance devient possible. Son joug est doux et son fardeau léger. Ou pour parler comme la première épître de Jean, chapitre 5, les versets 3 à 5, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » C'est notre foi. Tout part de la foi, de la confiance. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Tout nous a été donné. Et tout reste à faire. Ah, je me disais bien, il y a un truc. Tout est donné, la justice, la sainteté, l'approbation, la paix, tout nous est donné. Tout reste à faire, c'est-à-dire à passer dans des actes. Et c'est ici qu'il faut entendre cette parole de Jésus. À celui qui croit, tout est possible. Tout est possible, l'obéissance parfaite devient possible. Alors je voudrais faire quelques petites remarques sur cette obéissance que Dieu espère. D'abord, l'obéissance de la foi est joyeuse. Elle exprime une gratitude, une réponse à un amour premier, un amour déjà là. Souvent, on dit que les églises sont un peu tristes. Moi, je crois que vraiment, l'obéissance de la foi nous rend joyeux. 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 Il y a une petite parabole que Jésus a prononcée. Il dit il y a un ouvrier agricole qui bêche son champ comme tous les jours. Puis un beau jour, paf, quelque chose qui est là. Tiens, il ouvre, enfin, il creuse et il déterre un trésor caché dans le champ. Sa réaction, ce n'est pas de se lamenter. Qu'est-ce qu'il fait? Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. N'est-ce pas? C'est la joie qui le met en mouvement, cette joie immense d'avoir découvert ce quelque chose qui l'attendait, qui était déjà là. Eh bien, c'est ça la grâce de Dieu. L'amour de Dieu est un déjà là, qui nous précède, qui nous attend et qui ne demande qu'à être découvert. On peut, pendant longtemps, en essayer d'évangéliser en culpabilisant les gens, en leur disant « vous êtes des pécheurs, si vous continuez comme ça, vous allez en enfer, etc. » Puis je me suis dit « mais est-ce que c'est ça, la bonne nouvelle ? Est-ce que ce n'est pas plutôt « vous êtes pardonnés » mais vous ne le savez pas encore. Vous êtes aimé, mais vous ne l'avez pas encore découvert. Ça vous guette, ça vous attend, mais vous ne l'avez pas encore cru. C'est comme Paul dit, nous vous en supplions de la part du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Voyez, les portes sont ouvertes, les bras du Seigneur sont largement ouverts. Le problème de l'humanité, c'est son ignorance. Elle ne le sait pas. Et nous sommes là pour le lui dire. Bien. Première remarque, je vais plus loin quand même. L'obéissance de la foi témoigne d'une liberté obtenue par grâce. Une liberté. L'obéissance est une obéissance choisie et non pas subie. Elle fait sortir du « il faut, tu dois » pour entrer dans la confiance. Si Dieu ordonne, c'est qu'il donne les moyens de faire sa volonté, parce qu'il nous a fait confiance. Notre foi rencontre celle de Dieu. Et c'est peut-être là le plus difficile à accepter pour nous, que Dieu nous fasse confiance. Vous le croyez? C'est comme dans les paraboles de Jésus, ça revient constamment. Le roi qui part et qui remet les tâches, les charges à ses ministres, le patron qui part au loin et qui confie ses richesses à ses employés, il leur fait confiance. Et celui des trois exemples que Jésus donne, qui échoue dans cette affaire, il échoue pourquoi ? Parce qu'il ne croit pas à la confiance du maître. Il prête au maître d'autres motivations que la confiance. Je savais que tu es un homme sévère, tu moissonnes ou tu n'as pas semé, etc. L'obéissance de la foi est ce qui satisfait Dieu avant tout. Elle est préférée au sacrifice. Matthieu 21, 28 le montre bien. Celui des fils qu'on a lu tout à l'heure, celui des fils qui a fait la volonté du Père, le premier, l'a fait suite à une repentance. Il dit d'abord non, puis ensuite il se repent et il va. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé que son cœur a été touché. Sa foi s'est mise en œuvre. Et il s'est mis au travail. Donc, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et c'est cela que Dieu attend. Il attend de nous que nous lui manifestions l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi n'est pas contrainte, c'est-à-dire qu'elle ne résulte pas de la peur, comme la peur du gendarme, ou la peur de subir un mauvais traitement, ou bien comme l'obéissance obtenue par un dresseur de fauves armé de son bâton. Ce n'est pas ça l'obéissance de la foi. Elle n'est pas non plus issue de la séduction, armée de la carotte. Il y a le bâton, il y a la carotte. La séduction comme un piège tendu. Dieu ne piège personne. Dieu ne prend personne par ruse. Il ne séduit pas, il appelle. Il y a une énorme différence entre ces deux verbes, séduire ou appeler. Parce que appeler, c'est encore respecter la liberté des gens. Séduire, c'est piétiner leur liberté. Et nous savons qui est le séducteur. Depuis les premières pages de notre Bible, il est celui qui séduit. Ça commence par S, comme le serpent. Le séducteur. Eh bien, Dieu, non, ne séduit personne. Il n'utilise pas la séduction pour nous amener à l'obéissance, mais il nous appelle, il frappe à la porte et il attend notre réponse. Il faut dire qu'on l'a souvent fait attendre. Parce que nous manquons de confiance. Mais quand on lui fait confiance, alors la porte s'ouvre. L'obéissance de la foi n'est pas contrainte, elle ne résulte pas de la manipulation, comme un robot programmé ou une marionnette à qui il est impossible de se dérober. Il n'y a pas de fatalité. Lorsque la nuit de son arrestation, Jésus prie et demande s'il est possible d'échapper à ce qui approche, il finit par renoncer librement à sa volonté propre. Il n'y a pas de fatalité. Même s'il est dit « il fallait que l'Écriture s'accomplisse », il n'y a aucune fatalité là-dedans, car Jésus a encore le choix d'obéir ou de renoncer. Et il renonce, en fait, mais à sa propre volonté. Et c'est justement par ce libre renoncement qu'il nous arrache à toute fatalité. Obéir, l'obéissance de la foi, nous met donc dans une vraie liberté. Et nous ne sommes pas comme les musulmans qui disent « Mektoub, tout est écrit, tout est dit d'avance ». Mais il n'y a pas qu'eux qui disent ça. Il y a beaucoup de gens qui croient à un destin inscrit inéluctablement dans les étoiles, dans les désastres, pardon, dans les lignes de la main, ou que sais-je. Beaucoup de gens vivent comme les jouets d'une destinée à laquelle ils ne peuvent pas échapper. Je me souviens de voisins que nous avions en Loire-Atlantique, et chaque lundi, dans le journal, il y avait des décès par accident de la route, de jeunes qui avaient trop bu, qui allaient trop vite, etc. Et la dame me dit, « Oh, mais qu'est-ce que vous voulez, c'était l'horreur. » Ben non. Non, c'est pas l'horreur. C'est une défaillance profonde de la société vis-à-vis de l'alcoolisme. Mais c'était pas l'horreur. Voyez-vous, le monde, et pas seulement les musulmans, vivent sous une espèce de contrainte du destin qui les emprisonne. Eh bien, l'Évangile nous a franchis de cela. Il n'y a pas de fatalité. Et même lorsque nous disons que la volonté de Dieu se fasse, comme Jésus l'a dit à Gethsémané, il n'y a aucune fatalité là-dedans. Parce qu'elle va se faire avec notre consentement. Encore une petite remarque. L'obéissance de la foi s'oppose à la religiosité. Cette somme de dogmes, de règles, de gestes rituels, dans les chapitres 28 et 29 du prophète Ésaïe, il dénonçait une religiosité devenue superficielle. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur, toujours. Son cœur est éloigné de moi. Ésaïe 28, 9 à 10. C'est précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Et le prophète de protester, au verset 9, dit, on n'est pourtant pas des gamins. Il avait déjà senti quelque chose là, Ésaïe. À qui veut-on enseigner la sagesse, dit-il? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Voyez-vous, nos rapports avec Dieu doivent devenir des rapports adultes. Dieu ne désire pas nous traiter comme des petits-enfants. Il faut y passer par l'enfance, bien sûr, on ne peut pas échapper à des débuts balbutiants et trébuchants. Mais vient un temps où il faut grandir. Et Dieu désire nous faire grandir, faire de nous ses interlocuteurs, ses amis. Jésus l'a dit, je ne vous appelle pas esclaves, mais amis. Je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Il y a un partage, j'allais presque dire d'égal à égal. Pas tout à fait quand même. Mais voilà, c'est à cette obéissance de la foi, j'allais presque dire a-religieuse, que Dieu nous invite. Jésus d'ailleurs aussi proteste, comme Ésaïe, devant l'inflation des règles, des rites traditionnels, des préceptes humains. C'est ce que nous avons lu dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Ces interlocuteurs, s'ils peuvent être fatigués et chargés par les aléas de l'existence, par les maladies, les infirmités, moi je veux bien, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas de ça qu'il est question, là. C'est justement de voir cet accablement du peuple qui plie sous le joug de la, j'allais presque dire, de la charia de son temps. J'utilise un mot très présent dans notre actualité. Mais au fond, c'était un peu ça. C'était même tout à fait ça. Il ne fallait pas manger de ceci. Enfin bref, c'était un fardeau écrasant. Et Jésus dit, mais venez à moi, prenez mes instructions, prenez mon joug. C'est l'obéissance de la foi. Et vous savez, les exigences du Christ en matière d'obéissance, ça se résume en très peu de choses. Aimez-vous les uns les autres. Faites-vous serviteurs les uns des autres. Voilà. C'est facile. C'est pas lourd. Encore un vieux cantique. Nous voici pour te servir. Ton joug n'est pas difficile. C'est une joie d'obéir à ta voix, rends-nous dociles. Sous l'étendard de la croix, aux ordres de l'Éternel, nous sommes les héritiers du ciel. Alléluia. Ça en fait des vieux cantiques, hein, qu'on ne chante plus. Mais il nous parlait, ces cantiques-là. Et il disait bien les choses. Nous sommes les héritiers du ciel. Quel honneur, quelle noblesse, quel privilège. Et à ce tarif-là, l'obéissance n'est pas difficile. C'est l'obéissance de la foi. On va terminer par quelques exemples bibliques. Et d'abord un exemple négatif. Ce n'est pas difficile, on va vers le début, Adam. Adam a désobéi. Pourquoi ? Parce qu'il a douté. Il a accueilli une parole qui a semé le doute. Dieu a-t-il réellement dit ça ? Donc, l'adversaire a en quelque sorte commencé par assassiner la foi. Par contre, dans tout le reste des Écritures, nombreux sont les exemples d'obéissance de la foi. On pourrait parler de Noé qui construit son bateau selon la parole qui lui était parvenue en plein désert. Les gens se moquent de lui. Les Chaldéens se moquent de lui en disant « Il est Maboul ». Sans se douter qu'en Chaldéen, Maboul, ça veut dire déluge. C'est vrai ça. Abraham se met en route vers l'inconnu. C'est l'obéissance de la foi. Moïse construit un sanctuaire nomade. Il accepte et il fait tout selon ce qui lui a été montré. Tous les prophètes ont parlé, ont agi, ont mis leur message en scène par la foi. Je me souviens de ce prophète qui achète un terrain. En pleine période d'occupation. Enfin, et on lui demande, mais pourquoi tu achètes ce terrain ? Il dit, ben parce qu'un jour, on rebâtira sur ce terrain-là. C'est la foi. On pourrait citer toute l'énumération du chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux avec ce leitmotiv qui revient sans cesse, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, etc., etc. L'obéissance ne peut pas être autre que l'obéissance de la foi. Et je voudrais enfin considérer Jésus, le modèle et l'accomplissement de cette obéissance de la foi. Jésus reprit la parole, Jean 5, 19. Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Plus loin, il dira, je fais toujours ce qui lui est agréable. Il y a donc au préalable en Jésus une contemplation, une admiration, un attachement à ce que Dieu fait, à ce que le Père fait. Et parce que le Père fait cela, alors il le fait aussi pareillement. Ça, c'est l'obéissance de la foi. Par la venue, les paroles et les gestes de Jésus, l'histoire du monde a connu une rupture décisive. Désormais, aucune appartenance ethnique, religieuse, sociale ne compte devant lui. Si aujourd'hui le religieux semble se porter comme un charme, au point de pourrir les relations sociales de manière même violente, y compris dans notre pays, c'est ce que nous voyons ces jours-ci, il faut se rappeler que la foi évangélique signe pourtant la fin de la religion. C'est la fin de la religion, la foi évangélique. C'est la fin de ces sommes de dogmes, d'observances, de signes identitaires, séparateurs, plein de haine. Alors, voyez-vous, nous avons en nous un privilège là, c'est de pouvoir montrer à la société autre chose. montrer que nous obéissons au Seigneur par amour, dans la confiance. C'est une bonne nouvelle. Au fond, le problème des gouvernements actuels, n'est-ce pas le fait qu'il n'y a plus la confiance ? Les gens ne font plus confiance à ceux qui nous gouvernent. Comment voulez-vous obéir à des lois produites par des gens qui n'ont pas la confiance du peuple ? Et je crois, si j'avais un avis à donner, qu'aujourd'hui, le plus urgent dans notre pays, mais pas seulement, c'est que nos responsables politiques devraient reconstruire d'abord une confiance, pour ensuite voir le peuple accomplir sa volonté. C'est là aussi l'obéissance de la foi en matière politique qui serait vraiment une issue au problème de l'heure. Mais je ne veux pas me lancer dans une analyse politique et sociale, hein, c'est pas mon boulot. Bon. Ce qui distingue la foi en Christ des religions, c'est que la foi nous libère de l'image fausse d'un Dieu vengeur, menaçant ou méprisant la condition humaine. Au contraire, Dieu, par Jésus-Christ, est venu habiter cette condition, partager notre faiblesse. Jésus a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et c'est pour cela qu'il peut et qu'il veut nous venir en aide. Amen. Seigneur, merci pour ta bonté, ta grâce. Oui, tu ne fais pas peser sur nous un joug qui nous étouffe ou nous écrase, mais tu nous as aimés, tu nous as réconciliés, tu nous as établis dans la paix d'une communion éternelle. Et nous te bénissons pour cela. Seigneur, que nos cœurs soient toujours reconnaissants de ce que tu es, de ce que tu as fait pour nous. Oui, Seigneur, apprends-nous à manifester cette obéissance de la foi. Amen.
Merci à Laurent pour cette parole.